Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Churchill disait que l'extérieur du cheval exerçait une influence bénéfique sur l'intérieur de l'homme. Quels sont d'ailleurs les bienfaits scientifiquement avérés des animaux de compagnie? Comment expliquer que nos chevaux, chiens, chats, hamsters, tortues, lapins et même serpents nous procurent du bien-être? Comment expliquer ce lien thérapeutique bénéfique? Pourquoi la médiation animale peut nous aider à surmonter un stress chronique, apaiser une anxiété, un sentiment d'isolement, abaisser le niveau d'une douleur physique? Coup de projecteur également sur les bienfaits de la ronron-thérapie. Les chats restent les animaux domestiques les plus populaires dans notre pays. N'hésitez pas à poser vos questions et à témoigner au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Comme tous les mercredis, on retrouve votre chronique « Ma vie de parent ». Quel est le menu ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la campagne de prévention qui vient d'être lancée par le gouvernement pour sensibiliser tous les parents et éducateurs au syndrome du bébé secoué.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Ah, te voilà toi, hein? Et alors? Et alors?
J'aurais jamais cru qu'on puisse s'attacher à une vache. Une vache. Écoute, Marguerite, je vais te jurer quelque chose. Tu peux me croire, je te jure que jamais plus je mangerai du veau. Après ce que tu as fait pour moi, c'est la moindre des choses. Et maintenant, tu peux me dire oh merde. Parce que j'en ai besoin, tu sais. Adieu.
Bien fait de l'attachement entre la vache et le prisonnier dans le film d'Henri Verneuil en 1959. Bonjour Yolaine Delabigne.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, directrice et fondatrice de l'association L'Animal et l'Homme. Vous avez publié chez Le Duc Mon année zéro souffrance animale. Et le 5 février aura lieu à Paris la journée mondiale des intelligences animales à la Cité des sciences et de l'industrie. Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit. Et ça va être passionnant.
Pourquoi ça va être passionnant?
Parce que, en fait, on va avoir des conférences, mais surtout des rencontres sur le thème des intelligences des animaux. Donc, on va beaucoup parler de chats, avec d'ailleurs Eric Baratek qui est ici, avec Michel Bourton, qui a eu une histoire incroyable que je vous raconterai. On va, avec Jessica Serra, que vous connaissez bien, on va parler de la bête en nous, c'est-à-dire tout ce qui est commun entre les humains et les animaux, parce que finalement, on est des humains, les humains sont des animaux comme les autres, et on l'a un petit peu oublié. On a André-Joseph Bouglione, qui est notre parrain et qui est le premier qui a renoncé aux animaux, et puis Gilles Demesse, qui a fait le film Le Loup et le Lion.
Bonjour Eric Baratek.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des animaux, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 3, et vous aviez publié un très remarqué « Culture féline au seuil ». Bonjour Laurence Paoli.
Bonjour.
Ancienne collaboratrice du Muséum d'Histoire Naturelle, vous publiez « Quand les animaux nous font du bien », enquête sur ces compagnons qui rendent nos vies meilleures. Et c'est publié chez Buchet Chastel. Bonjour Jean-Yves Gaucher, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire à Toulouse, et j'aimerais, commencer avec vous. La France compte environ 15 millions de chats. Le ronronnement, c'est un mode de communication du chat. C'est ce petit grondement régulier du chat lorsqu'il est content. Comment fonctionne le ronronnement et pourquoi ce ronronnement a-t-il des bienfaits sur nous autres humains?
Alors, le ronronnement, ça fait partie sûrement des causes qui ont fait que le chat reste dans les maisons depuis des milliers d'années. Bien sûr qu'il avait un intérêt, le chat, pour préserver donc les foyers où il y avait du blé. Enfin, c'était le début de l'agriculture. Mais il y avait d'autres animaux qui pouvaient manger les souris. Il y avait des chiens ratiers, etc. Eh ben non, c'est les chats qui sont restés dans la maison. Alors il y a une raison là à ça, dont le ronronnement qui est vraiment un mode d'attachement entre le chat et l'homme parce que ça fait du bien. Alors pourquoi ça fait du bien? Ça fait du bien aux chats entre eux et pour eux-mêmes. Le ronronnement, on l'a bien mis en avant. C'est un moyen pour le chat de se rassurer, c'est un moyen de chat de partager un petit bonheur, en particulier avec nous. Les chats ronronnent entre eux, mais ils ronronnent très proche contre nous, alors que ils ne miaulent qu'avec nous. Hein, les chats entre eux ne miaulent pas pour se parler entre eux. C'est le ronronnement qui est, entre la mère et les petits, la première manière de converser, la première manière, et en particulier de se rassurer. Le chat, la chatte, dès même son accouchement, puisque c'est quand même bizarre, l'accouchement qui est un sale moment quand même pour la femelle qui met bas, eh bien le ronronnement accompagne ça. Donc pendant la douleur, le ronronnement est déjà en route.
Quels sont les bienfaits de ces vibrations sonores sur les êtres humains? Alors, qu'est-ce que ça provoque chez nous?
D'abord, on perçoit le ronronnement de deux manières. On le perçoit avec nos oreilles. Et là, c'est une petite musique qu'on connaît bien et qui nous rassure, parce qu'on l'a déjà entendue, c'est un souvenir, c'est quelque chose qui a un sens, si vous voulez, depuis notre plus jeune enfance, et c'est perçu comme quelque chose d'agréable et qui nous ramène à des bons moments quand on était petit ou dans telle et telle situation. Et puis alors, il y a le ronronnement qu'on perçoit en tant que vibration, là il n'y a pas, on le reconnaît pas, mais on le perçoit avec la peau, avec des on va dire des petits récepteurs nerveux qui sont les mêmes qui nous calment également lorsqu'il y a des caresses. Caresses, c'est-à-dire physiques, et qu'on passe très doucement la main ou quelque chose qui est contre la peau et qui soulage et qui entraîne la production d'endorphines. Alors vous me demandez, oui, pourquoi ça soulage? Eh bien parce que lorsqu'on reconnaît par l'oreille, lorsqu'on reconnaît qu'il y a un ronronnement autour de nous, et évidemment dans une situation calme, dans une situation où il n'y a pas d'autres interventions physiques ou auditives, on se ressource avec les souvenirs, avec la production donc de sérotonine. La sérotonine, c'est vraiment une hormone naturelle qu'on produit dans ces moments-là, et ça nous pousse au sommeil, ça nous soulage et ça nous pousse au sommeil. Par ailleurs, lorsqu'on perçoit avec toutes nos terminaisons nerveuses qui sont sur la peau, et que, entre parenthèses, le chat, les mêmes récepteurs nerveux qui s'appellent les corpuscules de Pacini, qui perçoivent donc ces vibrations très très fines, très très calmes, eh bien, le chat en a partout dans son corps.
On va se faire plaisir.
À avoir des corpuscules de Pacini partout dans son corps. Donc, quand lui ronronne, il s'envoie une bonne giclée d'endorphine, beaucoup plus que nous.
On va se faire plaisir en écoutant un ronronnement de chat. Vous êtes bien là, Yolaine Delavigne?
J'adore. Ouais. J'adore. Bah oui. J'ai bientôt m'endormir d'ailleurs.
Votre regard d'historien, Éric Baraté, sur ce qui vient d'être dit par notre vétérinaire Jean-Yves Gaucher.
Oui, alors c'est tout. Il y a aussi une dimension historique parce que jusqu'au 19e siècle, on ne fait pas attention au ronronnement. Hein. On appelle ça d'ailleurs filer son rouet. On a l'impression que c'est quelque chose de mécanique sans beaucoup d'intérêt. Et en fait, c'est au 19e siècle qu'on remarque le côté attendrissement, sentimental, rapprochement du ronronnement. C'est l'époque où on invente le terme ronron et ronronner. On trouve ça, par exemple, chez Balzac dans le Père Goriot. Mais d'ailleurs, il écrit ronron en italique, parce que c'est tout à fait nouveau à l'époque. Et donc, il faut à la fois que les humains se mettent à s'intéresser aux chats et que les chats se mettent à s'intéresser aux humains. C'est pas toujours le cas dans l'histoire. Et là, nous vivons une période tout à fait particulière actuellement avec des chats qui sont devenus les premiers animaux de compagnie, et nous sommes donc très sensibles à ces chats. Nous les percevons, nous réceptionnons ce qu'ils font, mais eux-mêmes aussi. Hein, donc il y a une rencontre, on pourrait dire, historique entre deux animaux, presque.
Yolaine de Labine.
Ce qui est intéressant dans le ronron, il y a le côté cardiaque, on en parlera tout à l'heure, mais il y a surtout la caresse. En fait, le toucher est quelque chose d'assez peu étudié chez les humains, c'est très important. Vous savez, on se souvient de ces expériences épouvantables en Russie avec des bébés. Les infirmières qui s'en occupaient dans un orphelinat avaient l'ordre de ne pas les toucher et ils ont fini tous par mourir. L'être humain a besoin d'être touché et on connaît pas encore bien le toucher, mais chez les animaux, vous remarquerez qu'ils se touchent beaucoup. Les pouillages des primates, les chevaux qui se mordillent, les oiseaux, quand on voit des couples de perroquets, ils se lissent comme ça les plumes, les cachalots qui se caressent en se passant comme ça. Donc en fait, le toucher est très important dans le monde animal, parce que justement, et c'est ce qu'on voit avec un chat, ça vous apaise, ça baisse le fameux cortisol qui est l'hormone du stress, ça augmente au contraire dans le cerveau l'ocytocine qui est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, et donc le toucher est extrêmement important, et on le voit avec le chat.
On reviendra tout à l'heure sur cette question du toucher. Laurence Paoli, sur les bienfaits de la ronron-thérapie, vous avez enquêté
J'ai lu deux, trois choses, mais surtout, tout a été dit là, mais je rajouterais aussi que le ronronnement est thérapeutique réellement, puisque se rendait compte que les fréquences, que le chat qui souffre, par exemple, ronronne pour se soigner, et les vétérinaires se sont rendus compte que les fractures des chats, par exemple, guérissaient beaucoup plus vite que les fractures d'autres animaux. Et il y a une étude très sérieuse qui est sortie en 2009 qui dit que le ronronnement du chat a posé sur vous, a un effet positif sur votre structure osseuse et sur vos ligaments. Et donc, ce sont des fréquences basses qui, en fait, visiblement aident peut-être à la reconstruction. Donc, il y a un vrai travail qui est mené là-dessus.
Alors justement, sur les fréquences, on est en train de découvrir des tas de choses. Et par exemple, sur les baleines, qui, vous savez, peuvent communiquer à des centaines de kilomètres, en fait, par des ondes et des vibrations. Et beaucoup de scientifiques pensent qu'elles soignent. C'est sans doute pour ça que les baleines vivent aussi longtemps. Maintenant, on sait qu'elles vivent 200 ans. Et on pense, comme pour les chats, que ces fameuses vibrations qu'on ne connaît pas encore bien, les éléphants aussi communiquent avec des vibrations, tout ça aurait un rôle médical. Mais là, c'est...
Oui, c'est la même chose pour les chats, d'ailleurs. On soupçonne qu'il y a des vibrations pour les chevaux. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas le démontrer.
Jean-Yves Gaucher.
Oui, pour vous rejoindre, ces vibrations entre 50 et 150 Hz qui correspondent aux vibrations du ronronnement, les kinésithérapeutes utilisent cette fréquence, alors cette fois-ci sur un plan physique, c'est-à-dire que c'est à cette fréquence-là que des sportifs en particulier qui ont des problèmes musculaires ou tendineux, sans aller jusqu'à des fractures quand même, hein, mais qui ont des inflammations au niveau des tendons en particulier, on les met sur des sortes de tambours qu'on fait vibrer justement à ces fréquences-là, et ils se remettent beaucoup plus facilement de leurs efforts et de leurs accidents en cours de jeu. Donc là, on a un phénomène physique qui est complètement naturel chez le chat et que on a récupéré dans le domaine médical.
Bonjour Brigitte, bienvenue.
Bonjour Ali.
Alors, vous êtes retraitée et votre chat Bozo vous fait du bien.
Ah, c'est rien de le dire, Ali. J'ai un moment privilégié dans la journée avec lui, qui est la sieste. Mm-hmm. Bon, parce que le coquin, il a tendance le matin à sonner le clairon à 5 heures du matin.
Ah oui, je comprends que vous fassiez la sieste après.
Donc, la sieste est obligatoire. Et c'est un vrai bonheur. Mm-hmm. C'est plus... Je rentre dans l'intimité, je fais la sieste sous ma couette, dans mon lit. Et en fait, quand je suis installée, il vient se mettre au creux de mon bras, avec sa petite tête sur mon épaule, et il ronronne. Et pour moi, c'est un moment incroyable.
Pourquoi ça vous fait du bien, Brigitte?
Parce que il y a déjà ce contact et cette chaleur contre moi. Et j'ai l'impression qu'il y a un échange là, un très intense entre nous deux, qui me fait... j'ai l'impression d'être ailleurs, de plus être dans la réalité de ces journées assez dures quand on vit toute seule. Et en plus avec cette pandémie, quoi. En tout cas, je souhaite à beaucoup de personnes qui vivent seuls, d'avoir ce moment de joie, au moins ce moment de joie dans une journée, quoi. Mmh.
Laurence Paoli, sur les bienfaits de l'animal de compagnie, du chat singulièrement, dans cette période de crise sanitaire, d'isolement.
Ah bah clairement, l'animal de compagnie, lorsqu'on est seul, lorsqu'on est enfermé chez soi, vous apporte une présence extraordinairement réconfortante. D'abord, vous avez un lien avec lui, en général, quand c'est votre animal profond. Il vous donne de l'affection, et il vous donne effectivement de la chaleur, la chaleur humaine, la chaleur d'un être de chair et de sang. Il vous réconforte, il vous regarde dans les yeux quand c'est un chien. Quand c'est un chat, je crois que c'est un peu moins fréquent, mais il cligne des yeux en vous regardant avec affection. Vous pouvez lui parler, il y a plein de gens qui parlent à leur animal, donc vous vous sentez moins seul, vous entendez le son de votre voix, il comprend vos émotions, il comprend, grosso modo, on va dire, certains mots que vous lui dites. Donc vous avez un vrai partage et vous avez en plus de la vie autour de vous, ce qui vous donne quand même un élan vital. Donc la solitude est quand même vraiment, on va dire, repoussée. Et d'ailleurs, la pandémie a fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés adopter un animal ou qui ont pris un animal, et hélas. Beaucoup de gens ne savaient pas ce que ça voulait dire avoir un animal de compagnie, et que lorsqu'ils ont commencé à reprendre une vie un peu normale, ces animaux se sont retrouvés abandonnés. Parce que prendre un animal n'est pas neutre, il faut pouvoir quand même assurer son bien-être et s'en occuper.
Éric Baraté, sur le témoignage de Brigitte.
Oui, on voit bien à quel point il y a une rencontre entre deux individus, et ça, il faut que les deux individus le veuillent bien. C'est-à-dire que cette dame, elle est accueillante vis-à-vis de son chat, et le chat le sent. Au XVIIIe siècle, quand on s'évanouissait à la vue d'un chat, le chat sentait qu'on n'avait pas envie de lui. Et donc, il ne s'approchait pas. Et là, inversement, cette personne, elle sent que son chat, évidemment, lui aussi, il émet des vibrations, il émet des choses. Donc, il y a vraiment une rencontre de conciliation et volontaire des deux côtés. Autrement, ça ne peut pas se passer. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté, et on retrouve ça pour les chats, mais on retrouve ça pour les chiens, pour les chevaux. C'est pas simplement lié aux animaux de compagnie, on peut faire ça avec beaucoup d'animaux, à condition qu'il y ait un rapprochement réciproque.
Mais c'est vrai, le mot est là, ce que vous dites est vraiment la réalité. Ça fonctionne pour l'animal et pour l'homme lorsque c'est la rencontre de deux individualités, et si c'est la reconnaissance de ces deux individualités qui se parlent, qui se complètent et qui s'aiment, ça marche. Et là, ça vous apporte quelque chose de fondamental, et votre animal de compagnie qui est respecté aussi dans son individualité et dans le bien-être.
Yolaine de la Bille.
Alors, il y a des choses intéressantes que madame a dit. Elle a parlé de joie. Je crois que c'est très important. Les animaux sont drôles. Moi, je ris beaucoup avec les animaux. c'est drôle, vrai. Un animal. Ça a des réactions marrantes. Alors, il y en a qui sont plus drôles que d'autres. Hein. Mais il y en a, c'est des vrais clowns. Moi, j'ai un cheval, c'est un vrai clown. Il y a ça. Et puis, il y a la générosité. Je crois que c'est très important. Les animaux, dans l'ensemble, sont très généreux. Ils vous donnent, et pendant la pandémie, les gens étaient seuls, un peu malmenés. Cette générosité, un animal, il vous aime pour ce que vous êtes. Il ne vous juge pas. Nous, on juge en permanence les autres. Alors qu'un animal, ça lui revient. Il vous aime si vous êtes moche, si vous êtes fatigué, si vous êtes vieux, si vous êtes handicapé, il s'en fout, il vous aime pour ce que vous êtes. C'est merveilleux, c'est si rare.
Et Jean-Yves Gaucher.
Oui, ben là, je vous rejoins encore. Avec un chat, on peut parler. Et ça, c'est très important. Vous savez, en France, il y a, je ne sais pas combien, 10 millions, 12 millions, 15 millions de célibataires, de gens qui vivent seuls. Alors, quand il y a un chat, on parle avec son chat, plus qu'avec son chien. Et on gagatise un peu, vous savez, oh le minou, il a eu son, comme si c'était un bébé. L'animal, il prend un rôle, enfin le chat, il prend un rôle presque humain, on se rapproche par la discussion. D'ailleurs, il nous répond. Qu'est-ce qu'en disent nos participants?
Tiens, Laurence Paoli.
Moi, je parlais beaucoup avec mon chien, mais enfin, je pouvais passer pour une fofolle, mais je lui parlais beaucoup. Et surtout, je vais vous dire, je suis une grande trouillarde, moi, la nuit. Je l'amenais à la campagne avec moi. Et il me rassurait énormément. Et donc, je commentais tout ce que je faisais le soir. Je ferme la porte, t'as bien regardé, varniflé dans le jardin, etc., etc. J'avais ce grand dialogue. Et il me répondait, il comprenait très bien mes intentions.
Gwenaëlle Boulay.
Oui, nous, je m'occupe de magazines pour enfants, et on a énormément de courriers
enfants qui nous parlent de leurs animaux. Et toute cette question justement du jugement, du regard, de la confidence est très très importante pour les enfants. On a énormément d'enfants pour qui, ben voilà, ils peuvent pas toujours exprimer ce qu'ils ressentent à l'école, avec les copains, ils sont vite moqués, etc. Et ça, c'est un des aspects qui ressort énormément avec les enfants, de pouvoir se confier à quelqu'un sans être jugé. Et ça, ils nous le disent beaucoup. Mon chat, je peux tout lui raconter, il va pas le répéter. La question du secret qui est conservé, c'est très très fort chez les enfants qui ont un animal.
Justement, le 5 février, à la Cité des Sciences, on a Michel Bourton qui a écrit son histoire, qui est une enfant martyre. Ça a été épouvantable, vraiment, donc je vous décrirai pas ce qu'elle a vécu par sa mère. Et à partir de 5-6 ans, elle a dormi à la cave pendant une dizaine d'années. Et par le soupirail, il y avait des chats, un premier chat, et elle a vécu en fait avec des chats la nuit. Et elle explique vraiment que ces chats ronronnaient sur elle, l'alléchaient, lui redonnaient confiance, etc. Ils l'ont sauvée. Et après, elle s'en est sortie. Heureusement, ça va un peu mieux. Je raconterai plus tard. Et elle a fini par monter une école qui s'appelle l'école Candide, avec 3 principes d'éducation, que des 15 élèves, pas plus, pas de devoirs à la maison, parce qu'il y a des enfants qui peuvent pas faire leurs devoirs s'ils sont martyrisés chez vous, et des chats errants partout en liberté. Et ce qu'elle explique, c'est que systématiquement, les chats allaient vers les gamins qui avaient des problèmes, c'était difficile, et qui leur redonnaient confiance en eux, parce que quand vous avez un chat qui arrive, qui ronronne, qui se met contre vous, etc., vous vous sentez mieux, les gens, les petits copains disent, ouah, dis donc, ils t'aiment bien, etc., et que le chat redonne de la confiance aux enfants.
Éric Baraté.
Oui, parler à son animal, c'est un peu comme toucher. Hein. Je trouve que c'est vraiment les deux gestes symboliques de notre époque. Auparavant, on ne pensait pas à parler aux animaux. Hein. Au 19e siècle, parler à son chien, c'est absolument ahurissant. D'ailleurs, on ne parle pas à ses enfants, ou très peu. Ils parlent que si on leur donne l'autorisation à table, par exemple. Hein. Et donc, les premiers animaux à qui on va parler, ce sont les chevaux, les aristocrates, les paysans. Et puis ensuite, c'est le chien. Et maintenant, c'est le chat. Mais là aussi, il faut qu'il y ait une... Et le chat comprend très bien, ou le chien comprend très bien. On a appelé ça le baby talk, par exemple. On s'en est beaucoup moqué. On disait, oh, c'est les mémères à chien ou à chat. Vous savez, parler comme on parle à un enfant, un petit bébé. Eh bien, les éthologues ont montré que c'était efficace. C'est-à-dire que l'animal comprenait beaucoup mieux. Et donc, il y avait un rapprochement beaucoup plus efficace et important.
Laurence Paoli.
Tout ça est passionnant. Je rajouterai un exemple. Une des mamans que j'ai interviewées, dont l'enfant est atteint de troubles du spectre autistique, quand son enfant avait un retard, en fait, en termes de langage. Et quand ils ont pris leur premier chien, c'était un petit Tom, l'enfant, et le chien s'appelait Bebop. En fait, Tom articulait très mal et n'osait pas parler. Et donc, il s'est mis à parler à son chien. Et comme le chien comprenait ses intonations et que c'était des paroles simples et qui réagissaient aux ordres de Tom, en fait, du coup, Tom, ça lui a donné confiance, et grâce à Bebop, me disait sa mère, il s'est mis à parler de plus en plus, à répéter les mots, à les articuler, et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans le langage.
Merci beaucoup Brigitte de nous avoir appelé, je vous souhaite une bonne sieste cet après-midi avec Bozo. Merci également docteur Jean-Yves Gaucher d'être intervenu dans l'émission. On continue à s'intéresser aux bienfaits du contact animalier, et en attendant on écoute Michel Polnareff qui interprète La Mouche.
Une mouche posée sur sa bouche, elle était nue, on aurait cru le paradis tant elle était jolie. Je suis une mouche posée là sur sa bouche, je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tire d'elle sur ses lèvres. Moi j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler sur ses lèvres. Moi j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Donc cette mouche posez-la sur ma bouche, demanda-t-elle au peintre qui lui dit comme c'est joli. Voir cette mouche dessinée sur ta bouche, et moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser sur ses lèvres. Moi j'avais déposé le plus doux des plus doux baisers sur ses lèvres. Moi d'une gifle elle m'a tué, croyant que je voulais la piquer. Mouche posée sur sa bouche, elle était nue, on aurait cru le paradis tant elle était jolie. Je suis une mouche écrasée sur sa bouche, il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime, sinon elles deviennent piquées. Sur ses lèvres, moi je m'étais posée pour lui dire que je l'aimais, mais les femmes, moi je m'étais pas méfiée, c'est un
peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. Une mouche posée sur sa bouche. Je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que j'allais la piquer. Que c'est dur d'être une mouche, tant d'autres que vous prennent la mouche. De moi il ne reste qu'un point sur un tableau, comme le ciel est loin sur ses lèvres. Moi je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais des fois moi je n'étais pas méfié. Une mouche c'est vraiment très à tuer. C'est vraiment bête à tuer. Une mouche, c'est vraiment bête à tuer.
Michel Polnareff interprétait la mouche. Yolaine Delabigne sur les bienfaits de la mouche sur les êtres humains.
Ben, c'est amusant, une mouche. Oui. C'est, ça fait bzzz. Non, c'est hyper intéressant, les mouches. Hein. Comme tous les insectes, c'est génial à étudier.
Grand bien vous fasse. Ali Rebi. Sur France Inter.
10h33 et on s'intéresse ce matin aux animaux qui nous font du bien. Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Et Anne nous écrit, merci, grâce à l'extrait de ronronnement que vous avez passé, Coco cherche un petit camarade partout dans l'appartement. Bon ben voilà, on va laisser Coco chercher ce compagnon. Alors Laurence Paoli, vous publiez Quand les animaux nous font du bien. Vous avez enquêté sur les bienfaits des liens entre les animaux et les humains, en vous basant sur des recherches scientifiques solides. Quelles sont les limites des recherches scientifiques sur les bienfaits de cette médiation animale?
En fait, c'est ce que soulignait M. Baratet, c'est qu'en fait, vous avez une rencontre de deux individualités, une humaine et une animale, et que c'est quand même complexe de mesurer, on va dire, tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc ce qu'on a mesuré assez rapidement à partir des années 80, ce sont les effets bénéfiques physiologiques de la présence des animaux de compagnie. Donc on a pu mesurer effectivement que vous aviez des triglycérides plus bas, une tension plus basse, que vous repiquiez moins lorsque vous aviez eu un infarctus sur un second infarctus, que promener un chien vous faisait du bien physiquement, que la présence d'un chat faisait monter vos hormones positives, qu'on pouvait mesurer lorsqu'un chien vous regardait dans les yeux et que vous le regardiez, que votre ocytocine montait, vos taux d'ocytocine montaient. Tout ça, c'était mesurable. Mais on va dire la globalité est beaucoup plus difficile à mesurer avec les fameuses études longitudinales qu'on doit faire pour la médecine par la preuve ou avec les essais randomisés en double aveugle. Donc, on va dire le bienfait global de la médiation pose encore un problème à mesurer. Je rappelle ce mot tristement. Et c'est pour ça que l'éthologie rentre en ligne de compte maintenant, parce que l'éthologie est une science qui a des protocoles extrêmement précis.
C'est l'étude du comportement animal.
Exactement. Alors, donc, c'est des Donc, qui dit protocole précis dit objectivité des résultats. Et donc, grâce à l'éthologie, on commence à arriver à avoir des mesures maintenant un peu plus complètes et un peu plus globales. Mais on est encore loin du compte et il faut la reconnaissance des bénéfices de la médiation animale pose encore problème.
Voilà. Éric Baratté, je rappelle que vous êtes historien et que vous avez publié Culture féline au seuil.
Oui, je voulais rajouter qu'il faut aussi que les hommes pensent au mode de communication des animaux. Il y a un siècle, par exemple, penser à l'odorat, penser aux odeurs, etc., ça venait à l'idée de personne, parce qu'on privilégiait la vue, donc on regardait les gestes des animaux. On a découvert ensuite qu'il pouvait y avoir communication par l'odorat. Là, maintenant, on se pose la question, par exemple, des vibrations. C'est-à-dire, pour comprendre la communication entre les humains et les animaux, encore faut-il se poser la question de savoir comment les animaux communiquent. Et on a trop longtemps pensé qu'ils communiquaient comme nous, hein, donc uniquement les gestes ou la voix, etc. Mais non, on se rend compte petit à petit qu'ils communiquent avec bien d'autres choses auxquelles on n'est pas forcément sensible.
On a essayé d'appliquer en fait à la mesure des bienfaits animaux ce qu'on applique aux médicaments. en fait. Et ça, ça a été une erreur. C'est une erreur. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, la médecine par la preuve. C'est ce qui est reconnu dans le monde entier pour valider quelque chose de médical ou paramédical. Mais il faut changer de système de pensée et effectivement tenir en compte, prendre en compte tout ce qu'on apprend de plus en plus sur les animaux et sur leurs capacités énormes et essayer de trouver un autre système de mesure pour la médiation animale qui englobe tout et qui serait en même temps quelque chose de suffisamment objectif pour qu'on puisse systématiser le recours aux animaux dans des institutions médicales, en fait.
Yolaine Delabigne, journaliste et écrivaine.
Pour reprendre ce que disait Éric Baratet, c'est intéressant parce qu'en fait, la communication se rend compte qu'il y a des multitudes de formes de communication électriques, sismiques, enfin, qui nous échappent complètement, infrarouges. Enfin, c'est un grand délire. Et que les animaux, je trouve, par rapport à nous, une des différences, et je pense qu'en équithérapie, ça fait un bien fou, ils disent l'essentiel. Nous, on a une société très verbeuse. Les humains parlent beaucoup. On parle beaucoup pour ça, parfois, de ne rien dire, pour se disputer, etc. Enfin, on fait beaucoup de bruit, on est très bruyant. Ça demande beaucoup d'énergie, ça. Donc, dans la nature, les animaux, ils disent en général l'essentiel. J'ai faim, je mange, je t'aime, etc. Et les chevaux, notamment, il y a un livre que j'adore de Chris Irwin, qui est un murmureur canadien très connu au Canada, qui s'appelle « Les chevaux ne mentent jamais ». C'est l'histoire typique du chuchoteur. C'est un caïra, il s'engueule, il s'embrouille avec tout le monde. Un jour, il tombe sur un cheval, c'est l'explosion, il n'en revient pas. Et il consacre sa vie aux chevaux. Aujourd'hui, il est reconnu, il a une famille, il est très intégré, etc. Et en fait, les chevaux, ils vous disent exactement la vérité. C'est-à-dire que vous pouvez arriver devant un cheval, vous êtes là un peu affrimé, « Ouais, je vais super bien, en fait, vous n'allez pas bien. » Il va tout de suite vous le faire comprendre. Et c'est pour ça qu'en équithérapie, ils sont super bons, parce que ils vous obligent à aller vraiment dans l'essentiel de ce que vous êtes, et justement, pas à verber, à raconter des trucs comme on fait toujours. Et c'est ça que je trouve passionnant chez les animaux. Dans la nature, pour survivre et pour avoir une bonne vie, il faut aller droit à l'essentiel. Et ça, c'est génial. C'est une belle leçon.
Laurence Paoli, c'est au XVIIIe siècle, au Royaume-Uni, qu'apparaissent les premières expériences de soins par le contact animalier. On doit beaucoup au philanthrope et humaniste William Tuke. Il est atterré à l'époque par l'état des asiles psychiatriques. Et il fonde en 1792 une institution qui s'appelle The York Retreat. Et là, les patients peuvent s'occuper d'animaux.
Tout à fait. Alors, attention, distinguo entre soins par le contact animalier et médiation. Je ne sais pas s'il est aussi simple que ça, ce distinguo. Moi, j'ai préféré le faire dans le livre. Le soin par le contact animalier, c'est ce qu'on vit tous, ne serait-ce qu'avec nos animaux de compagnie, c'est-à-dire le bienfait que vous apporte un animal avec lequel vous êtes en contact. Un animal sauvage peut vous apporter ce bienfait-là. Donc, effectivement, le soin par le contact animalier, on va dire les premières traces écrites, ça remonte au 18e avec ce fameux William Tuck. Il s'est rendu compte que s'occuper des animaux pour les interner, ça leur faisait un bien fou. C'était des tâches simples, répétitives, un contact facile avec des animaux. Il n'y avait pas de jugement, pas de parole, pas de non-dit. Un contact physique qui les réconfortait. Et il a vu que ça fonctionnait très très bien. Plus tard, vous avez l'utilisation de certains animaux dans des hôpitaux. Mais là, c'était, on va dire, parce qu'une infirmière comme Florence Nightingale avait décidé d'amener une tortue. S'est rendu compte que ça aussi, ça a rasséréné ses soldats blessés. On a utilisé des chiens dans des hôpitaux militaires. Donc ça, c'est le soin par contact animalier, c'est venu petit à petit. Mais la médiation animale, qui est une relation triangulaire, parce que c'est défini comme ça maintenant, c'est-à-dire un animal, une personne intervenante et un bénéficiaire, on va dire que ça, c'est venu petit à petit, ça s'est défini petit à petit ensuite au cours des années, à partir des années 80.
Éric Baratet.
Il y a eu une grande époque de thérapie animale, ça a été la Première Guerre mondiale, où dans les tranchées, les soldats ont ramené des chats, des chiens, ont apprivoisé des oiseaux, ramené des vaches, des chèvres, alors pas dans les tranchées de première ligne, évidemment, et on voit très bien comment pour eux, c'est un moyen de se raccrocher à la vie, de penser à la vie d'avant, à la vie à l'arrière, et à la vie d'après, si on va en réchapper. C'est un peu de douceur dans un monde de brutes, et ça a été absolument fondamental. Et d'ailleurs, les armées, les dirigeants des armées l'ont bien compris, parce qu'à la fois c'était interdit officiellement, et en même temps ils laissaient faire.
Je rajouterais juste une petite chose qu'on ne sait pas toujours, c'est que Freud, à la fin de sa vie, travaillait avec une chienne, sa chienne, parce qu'il s'est rendu compte que ça libérait la parole.
Bonjour Florence, bienvenue.
Ah oui, bonjour.
Vous appelez de la Drôme.
Non, mais en fait, c'est...
bon, j'ai une erreur sur ma fiche, alors.
C'est pas grave, de l'Isère.
Alors, quel est votre témoignage, Florence ?
Oui, ça rejoint tout à fait ce qui vient d'être dit. J'ai un fils qui était en Grande-Bretagne, qui a été interné en hôpital psychiatrique sécurisé en Grande-Bretagne. Et un jour, un chat, une jolie chatte, s'est invitée près de l'hôpital, enfin dans l'hôpital. Et elle a été absolument adoptée par les soignants, par les patients. Et les soignants ont compris que c'était vraiment un bénéfice énorme pour tout le monde. Mmh. Et ils lui ont laissé une place sur un des sièges qui se trouvait dans... une fois que vous avez passé le sas, il y avait un sas de sécurité, puisque c'était un quartier de sécurité. Et ensuite, il y avait l'accueil proprement dit, avec un canapé. Et ce chat avait sa place sur le canapé. Et donc tous les patients et tous les soignants passaient par là, forcément. Et elle avait reçu un nom, elle était considérée vraiment par l'équipe comme faisant partie de l'équipe soignante, d'une certaine manière.
Laurence Paoli.
Mais en fait, vous avez tout à fait raison, madame. La médiation est rentrée dans les hôpitaux psychiatriques et dans les prisons d'ailleurs, totalement par hasard, parce que on a découvert par hasard que dans une prison dont je parle, qui est une prison hôpital psychiatrique, les prisonniers avaient caché un oiseau qui soignait. Et quand l'équipe s'est rendue compte de ça, plutôt que de supprimer l'oiseau, ils se sont dit que ça pouvait avoir un bénéfice et ils ont confié aux prisonniers des petits animaux. Et c'est comme ça que petit à petit la médiation est rentrée dans cet hôpital. Une autre publication connue, qui c'est la publication des Corson, c'est que c'était effectivement un asile pour adolescents psychiatriques, enfin un hôpital psychiatrique on va dire, plutôt qu'un asile. Et il y avait des chiens qui servaient à faire de l'expérimentation animale dans le même établissement. Et ils se sont rendus compte que certains de leurs patients les plus réfractaires au traitement, pour lesquels ça marchait pas, réagissaient quand ils entendaient les chiens aboyer. Donc ils ont pris ces jeunes patients, parce qu'ils étaient au bout de leur savoir et des traitements, et ils les ont mis en contact avec les chiens et ils ont obtenu des résultats complètement spectaculaires. Donc effectivement, l'intervention des animaux se fait souvent au départ par hasard et tout d'un coup on se rend compte du bénéfice. Là, je lisais des posts d'un commissariat qui ont adopté un chat par hasard et ils se sont rendus compte que dans le commissariat, ça adoucissait les mœurs de tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que ça faisait un lien et un liant extrêmement bénéfique pour l'ensemble du personnel et même pour les gens qui venaient témoigner, qui se sentaient tout d'un coup mis en confiance.
Merci beaucoup Florence de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. 10h, presque 44, il est déjà l'heure de retrouver Ma vie de parent de Gonelle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Alors aujourd'hui, Gonelle Boulay, vous avez choisi de nous parler du syndrome du bébé secoué.
Oui, depuis le 17 janvier, le gouvernement a lancé une campagne de prévention sur Internet pour sensibiliser les parents, mais aussi les assistantes maternelles, à ce terrible geste qui provoque chaque année la mort de plusieurs dizaines, voire centaines de bébés. Ce petit clip de 24 secondes est glaçant. On y voit un plan fixe sur un babyphone, duquel sortent à la fois les pleurs d'un bébé et la voix d'un papa excédé, à bout, qui hurle sur l'enfant. Et puis soudain, plus rien.
Alors ce geste, à quoi ressemble-t-il exactement?
Ben, il s'agit tout simplement d'une vive secousse du bébé, qui avec la force d'un adulte est dramatique pour le cerveau de l'enfant. Une fois sur 10, ce geste provoque la mort, et pour les autres, ce sont de graves séquelles. Alors devant un tel drame, on peut facilement se dire qu'il faut juste être fou pour faire ça. Classer les parents fautifs dans la case des parents maltraitants et se dire que nous, on est à l'abri, que jamais on pourrait faire un truc pareil.
Parce que malheureusement, ça peut arriver à tout le monde.
Bien sûr. Il y a parmi ces parents des parents qui sont fondamentalement maltraitants, qui sont dans un rapport de violence à l'enfant. Et puis il y a les autres, tous les autres. Et puis potentiellement vous ou moi. Je me souviens très bien qu'à la naissance de ma fille, à la maternité, il y avait dans ma chambre une affiche de prévention portée par le personnage du chat de Philippe Geluck. Une affiche assez humoristique d'ailleurs qui disait quelque chose comme « il ne faut jamais secouer un bébé ». Je me souviens très bien qu'à l'époque, regardant ma fille dans son berceau et cette affiche, je me disais « faut vraiment être con pour faire ça, secouer un bébé ». Je me souviens parfaitement de pas m'être sentie du tout concernée par ce message. Et puis de retour à la maison, les semaines ont passé. Les journées alternaient entre émerveillement devant ce petit être, fatigue du quotidien et moments de tension intérieure assez intense. Je me souviens avoir découvert que les pleurs de ma fille me retournaient les tripes. Oui, je me souviens avoir découvert un organe en moi jusqu'alors inconnu qui pouvait soudain se tordre en entendant ces pleurs nouveaux. Et cela suscitait en moi un terrible sentiment d'impuissance. Lorsque ma fille se mettait à pleurer longtemps, par exemple lors de ces fameux moments de fin de journée où rien n'arrivait à l'apaiser, cela me mettait dans un état de stress difficile à supporter. Et pendant des semaines et des mois, on m'avait préparé à l'accouchement, respiré, poussé, expulsé. Mais que faire devant les pleurs d'un bébé, ça, personne n'y avait préparé. Une fin d'après-midi, ma fille s'est ainsi mise à pleurer longtemps, longtemps. J'ai essayé le sein, je l'ai bercé, j'ai chanté et rien n'y faisait. Elle pleurait, et moi j'étais incapable de la calmer. Incapable, voilà le mot qui tournait en boucle dans ma tête, me renvoyant à une sorte d'incompétence dont j'étais fortement responsable. Et là, je me souviens très bien. Je crois que cette fois-là, j'aurais pu secouer ma fille, comme ça, à l'espace d'une seconde. Mais soudain, la fiche de la maternité m'est revenue, comme un flash. La tête du chat m'est venue et est venue s'interposer pour me dire « Stop, fais pas ça !» Alors j'ai posé ma fille, je l'ai laissée pleurer dans son lit. J'ai appelé mon mari au travail en lui disant « Stop-lait, reviens vite parce que là, je vais faire une connerie. » Il a tout plaqué, il est rentré plus vite que l'éclair, il a tout pris en charge et moi, je suis partie faire un tour. Ce jour-là, je me suis dit que cette histoire de bébé secoué, eh ben, ça pouvait arriver à tout le monde. Que c'était l'histoire d'une seconde, d'un mauvais réflexe. Mais qu'un rien pouvait aussi changer la donne. Cette fois-là, j'ai pensé aux femmes seules qui avaient personne parfois pour prendre le relais. Alors puisqu'il suffit parfois d'une image, d'un chat, d'une phrase, souvenez-vous juste de ça. Un bébé ne mourra jamais de pleurer. En revanche, il peut mourir d'être secoué. Alors si un jour vous sentez que vous allez craquer, que vous n'en pouvez plus, que vous n'êtes plus en état de raisonner, non, c'est pas que vous êtes un mauvais parent, c'est juste que vous avez besoin d'air et d'aide. Alors confiez-le au voisin, à la voisine, au boulanger, à qui vous voulez, posez-le sur le dos dans son lit, sortez respirer un bon coup, et voilà, ça tient juste à ça.
Et vous pouvez partager la chronique « Ma vie de parent » de Gonelle Boulay sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, continuez à s'intéresser à ces animaux qui nous font du bien. Et en attendant, on écoute Gabrielle's qui interprète Blame.
Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when I knew can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Lives and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I say, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
Gabrielle s'interprétait Blame.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
11h10 et on s'intéresse ce matin aux animaux qui nous font du bien. Alors Yolaine Delabigne, tout à l'heure vous parliez des bienfaits des caresses, du toucher. Hein, quand on caresse son chien, son chat, peut-être pas son serpent, je ne sais pas. Bienfaits sur les êtres humains, je ne sais pas. Tiens, je cite le docteur Janet Young hein, de l'Université of South Australia qui nous dit que les preuves s'accumulent pour indiquer que le toucher est crucial pour la santé des êtres humains, en permettant notamment de baisser les niveaux de cortisol, l'hormone liée au stress.
Ah oui, je pense que le toucher est très important dans, pour se calmer. C'est doux et c'est agréable en plus, parce que la plupart des animaux dont on parle ont une fourrure. Donc il y a le toucher est très important. Ce qui est important aussi, c'est, on n'a pas trop parlé, c'est la cohérence cardiaque. Vous savez, c'est le grand truc aujourd'hui, vous respirez 5 fois, vous expirez 5 fois, avec ça. Avec les animaux, c'est naturel. Et notamment, on a fait des expériences aux États-Unis. Il y a un institut qui s'appelle Earth Maths Institute, avec l'accent, qui étudie les problèmes cardiaque des chevaux depuis une dizaine d'années, et en fait les chevaux ont un rythme cardiaque beaucoup moins important que le nôtre, à peu près 40 pulsions par minute, et nous c'est 80. Et c'est pour ça que quand vous êtes à côté d'un cheval, en le caressant justement, il y a non seulement cette sensation incroyable de velours, quoi, c'est doux, donc c'est très sensuel, c'est extrêmement sensuel un cheval. Et en plus vous avez le fait, c'est pour ça que l'équithérapie marche très bien, tout d'un coup, vous arrivez à beaucoup mieux respirer, et les gens respirent mieux et ont moins de problèmes cardiaques à côté d'un cheval. Donc, et c'est la même chose pour les autres animaux, c'est passionnant.
Éric Baraté, je rappelle que vous êtes historien. Depuis quand caresse-t-on nos animaux de compagnie? Ça date de quand?
On voit ça commencer à peu près au 19e, là aussi, hein, parce que là aussi, le toucher, par exemple, dans l'aristocratie qui invente l'animal de compagnie, le toucher entre soi n'est pas du tout prôné. Hein. On est très distants les uns des autres. Donc, il faut attendre un peu, on pourrait dire, un peu la période romantique, sensualiste, où là, on met l'accent sur le corps. Et on fait ça donc avec les enfants, on commence, et puis avec les animaux. De toute façon, notre manière de se comporter avec les animaux de compagnie ou les animaux tout court est très liée à ce qu'on a fait avec les enfants. Hein. C'est à peu près parallèle avec une petite avance pour les enfants. Parler, toucher, s'amuser, etc., etc.
Bonjour Nicole, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous aimez bien caresser votre poule?
Besoin, c'est plutôt elle qui a besoin. Elle vient tous les matins dans ma cuisine, j'en ai deux. Hein.
Ouais.
Elles viennent pour que je leur parle, que je les caresse, etc. Mmh. Et elles sont très drôles surtout, parce qu'elles courent dès qu'elles me voient pour venir vers moi. Et une poule qui court, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est d'un drôle innommable.
Merci pour ce témoignage, Nicole. Alors, on a parlé du toucher. Le lien thérapeutique entre les animaux et les humains passe également par le regard. En 2009, une équipe de recherche japonaise a montré que lorsqu'un chien et son maître se regardent, leur taux d'ocytocine, l'ocytocine c'est l'hormone de l'attachement, leur taux d'ocytocine augmente conjointement et de façon significative.
Oui, tout à fait. Ce qui montre qu'en fait, cet échange de regards leur permet de communier, plus que de communiquer, et de se rendre heureux mutuellement. Vous savez, j'ai assisté à une séance de médiation animale à Angers, dans un hôpital de réadaptation qui s'appelle les Capucins. Et je suis arrivée la première, parce qu'il ne faut pas intervenir, il faut vraiment se mettre dans un tout petit coin, etc. Et en fait, Lucille Civelle, qui était la médiatrice à ce moment-là, est arrivée avec ses deux chiens. Et ça m'a sidérée, parce que j'étais assise sur ma chaise dans un coin. Il y a un chien qui est venu se coller devant moi et qui m'a regardé mais fixement dans les yeux, mais très gravement, mais vraiment pour voir comment j'allais. C'était très étonnant
et c'est troublant,
c'était très attentif, c'était très concerné, et je l'ai rassuré en le caressant pour lui dire que tout allait bien, que c'était pas moi le problème et qu'il fallait que... Enfin, le problème c'est pas le mot, mais que c'était pas moi dont il allait s'occuper. Et une fois qu'il a été rassuré, il est parti. Et je suis restée sur cette impression d'avoir quelqu'un de gentil, d'intuitif et de très concerné par moi, qui me regardait profondément dans les yeux.
Éric Baraté.
Oui, là aussi c'est très intéressant le regard, parce que ça montre que dans cette rencontre humain-animal, il a fallu que les deux se tournent vers l'autre, et notamment pour les animaux, qu'ils comprennent l'importance du regard chez les humains. Or, chez les animaux, le regard n'est pas important, il est souvent évité, parce que ça peut être une marque d'agressivité. Il joue sur d'autres aspects, comme les odeurs, les vibrations, etc. Et ils ont compris que pour nous, le regard était important. Et maintenant, on voit des chiens, des chats, mais d'autres animaux, qui savent jouer avec le regard et donc qui savent se rencontrer les humains là-dessus.
Mais c'est vrai que dans la faune sauvage, je pense qu'il y a, par exemple, les primates, si vous les regardez dans les yeux, c'est un signe d'agressivité, il ne faut absolument pas le faire. Mais les carnivores peuvent vous regarder, eux, assez fixement. Donc peut-être, alors là, je ne suis pas très au point là-dessus, enfin les carnivores, les gros carnivores, mais peut-être qu'effectivement, en fonction de la classe qu'on occupe, on regarde ou on ne regarde pas. Peut-être que le gros félin, lui, il n'a pas peur et il vous regarde attentivement parce que pour lui, vous représentez quelque chose d'intéressant, culinairement parlant, et de relativement insignifiant, donc il vous observe. C'est possible.
On parle ce matin essentiellement des bienfaits des animaux de compagnie, mais que sait-on des bienfaits des animaux sauvages, Laurence Paoli?
Alors là, c'est des choses qu'on sait tous intuitivement, on va dire. En fait, on sait tous ceux qui sont attirés par les animaux, et c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde, savent qu'observer un animal sauvage dans sa nature, l'observer vivre, pouvoir le croiser, pouvoir partager peut-être à un moment donné une forme d'intimité ou de complicité, vous apporte un bonheur absolument invraisemblable. Il y a un bouquin qui est sorti là, qui est une merveille, que j'ai lu trop tard, qui est de Catherine Raven, qui s'appelle Fox et moi, et qui raconte ça d'une façon absolument prodigieuse. J'ai adoré ce livre. Et effectivement, ça vous apporte, ce que disait Yolaine tout à l'heure, ça vous apporte de la joie, ça vous apporte un élan vital, ça vous apporte une réconciliation, et parfois même, ça vous apporte ce que les scientifiques appellent une sorte d'épiphanie de nature, c'est-à-dire un sentiment d'émerveillement absolument incroyable et de partage avec l'univers, avec d'autres que vous, qui vous portent derrière, après, durablement.
Un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, nous écrit ceci: le loup me fait du bien, je l'imagine dans la montagne, je pense à ma prochaine rando, là-haut dans les Alpes, immense et peu connue, j'aurai peut-être la chance de le voir depuis des années. Cette rencontre espérée me fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que ça fait écho au documentaire et au livre de Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges.
Hein. Oui, avec Vincent Munier, un photographe animalier extraordinaire qui paye de sa personne depuis toujours en se mettant dans les conditions invraisemblables, au milieu de nulle part, pendant des semaines, des mois, dans des conditions très dures, pour capturer ce moment incroyable qu'il vit, lui, de communion avec l'animal qu'il voit devant lui.
Un mot de conclusion, peut-être, sur notre thème ce matin, Éric Baraté.
Eh ben c'est quelque chose, cette rencontre des humains et des animaux, c'est quelque chose qui prend une importance vraiment croissante et primordiale dans notre civilisation. On a dit qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie d'un contact avec les animaux. C'était pas le cas avant. Et là, ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre d'une manière extrêmement forte. Et il y a vraiment là une nouveauté historique, avec une énorme richesse dans la rencontre. On découvre des choses qu'on ne devinait pas du côté des animaux, mais aussi on se découvre nous-mêmes humains dans cette rencontre avec les animaux.
Yolaine Delabille.
Sur justement le pouvoir des animaux, ça a été prouvé par une étude canadienne. Quand on entend des oiseaux ou une rivière, on est plus heureux et moins stressé. Donc il y a une chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est la grâce, la beauté, la liberté que nous offrent les animaux.
Et on n'a peut-être pas assez insisté ce matin, on a parlé du fait de parler à ces animaux. Ça fait du bien aussi, le silence qui peut s'installer entre un animal et soi. Laurence Paoli, un mot de conclusion?
Eh bien, aimez les animaux. Aimez les animaux, vivez avec des animaux et respectez les animaux quand vous vivez avec eux.
Ne les abandonnez pas.
Merci beaucoup, Laurence Paoli. Quand les animaux nous font du bien, c'est passionnant et c'est publié chez Buchet-Chastel. Merci, Yolaine Delabigne. Votre journée mondiale des intelligences animales aura lieu le 5 février à la Cité des sciences et de l'industrie. C'est gratuit. Merci, Éric Baraté. Culture féline, c'est publié au Seuil.
Grand bien vous fasse avec Extra Classe, le podcast à l'écoute de l'école et des enseignants. Chaque mercredi sur extraclasse.reseau-canopée.fr ou sur votre appli de podcast favorite.